important.
Et les bons élèves, eh bien, la Maïf ou les compagnons du devoir, qui sont à l'égalité. Et puis ceux qui ont fait des grands progrès, je pense à Orange, la Française des Jeux, Nocibé. Et puis dans les mauvais élèves, il y a de Richebourg, il y a Gosport. Mais tout ça sera public, car j'ai décidé de publier la liste des 1200 grandes entreprises.
Allez donc voir sur le site du ministère du Travail. 19 très mauvais élèves de l'égalité homme-femme. La ministre en cite 2 tout en bas du classement. Ouh là là, alors ceux-là, ils n'ont vraiment pas dû y mettre du leur. Eh oui, on balance, hein, c'est la fabrique de l'infamie. Aujourd'hui, ça s'appelle le name and shame. Au Moyen-Âge, c'était le pilori. Au 12e siècle, on clouait les brigands. Au 21e, on épingle les négligents. On peut le regretter, on peut discuter des valeurs, mais finalement c'est un peu le même sujet que les quotas. Ce qui compte, c'est l'efficacité, et là, on a un peu de recul, parce que le name and shame, ça existe déjà pour les délais de paiement. Alors bon, un ministre qui vous pointe du doigt, ça fait mal, mais franchement pas longtemps, hein, c'est éphémère. Ce qui est déjà plus douloureux, c'est la sanction financière. Et ce qui est le plus redouté par les entreprises, c'est l'obligation de publier sa mauvaise performance sur sa propre page d'accueil internet. Là, elle se démène. Du coup, le name and shame, bah oui, ça marche. Alors ce matin, grosse satisfaction, mais quand même deux réserves. D'abord, des interrogations sur la qualité du thermomètre. Ça serait un peu trop facile d'accumuler les bons points. Et puis quand même, il faut bien le dire, les entreprises, elles ne peuvent pas tout. L'inégalité subie par les femmes, elle se construit aussi à la maison. Donc, le name and shame, c'est bien. Mais sur l'allongement du congé paternité, on en est où ?
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Et je vous renvoie sur le site de France Inter aux articles de mon excellente consoeur Claire Chaudière. Bienvenue, c'est samedi, c'est le Mag Éco. Et le magazine est réalisé par Coyenne Guyenne. Valentin Pérez est attaché de production. À la technique ce matin, c'est Juliette Delperroux qui est avec nous. Les piliers sont là autour de la table. Christian Chavagneux d'Alternatives Économiques, bonjour.
Bonjour, bravo, hein, la fabrique de la famille pour Name & Shame. Excellente traduction, j'avais jamais entendu ça.
Bon, eh ben écoutez, merci, j'ai mon bon point moi aussi. J'ai les classements Chavagneux. Et bonjour Emmanuel Le Chypre.
Bonjour à tous.
BFM Business. Emmanuel, BFM Business, je vais prononcer la fin de ce mot, n'est-ce
pas ? Oui, BFM Business, absolument.
Emmanuel, vous avez un livre à nous recommander ?
Oui, absolument, parce que sur le sujet des inégalités économiques entre hommes et femmes, il ne faut pas se tromper hein, de combat. À l'école, c'est fini, les filles sont meilleures que les garçons. Dans l'entreprise, on peut dire ce qu'on veut, ça s'améliore, globalement.
Ouais.
Mais, très important, c'est dans les familles que se fabriquent et que se reproduisent des inégalités entre hommes et femmes. Et souvent, pour des raisons qui ne sont pas des raisons financières, je vous renvoie sur Zonk, un excellent livre, ça s'appelle Le genre du capital. C'est Céline Bessières et Sybille Golac, deux sociologues comme on les aime, parce qu'ils sont hyper enquêtrices. C'est pas du jargon, ça se lit.
Sociologue de terrain.
C'est à mettre sur toutes les tables de chevet, dans toutes les chambres familiales de France, pour comprendre comment on fabrique vraiment les inégalités entre les femmes, l'égalité de patrimoine, notamment. Et encore une fois, pas seulement pour des raisons financières.
Bon, ben on va essayer de se le procurer celui-là, hein. Très intéressant. Nous, notre débat, Christian, Emmanuel, évidemment le coronavirus. Depuis quelques jours, nous sommes entrés dans un autre monde. Alors, est-ce qu'à la crise sanitaire vont s'ajouter une crise économique et ou une crise financière ? Tout le monde se pose la question, personne n'a la réponse. C'est le moment pour vous, les débatteurs, de regarder de quel côté penche la balance des arguments. On se retrouve dans une poignée de secondes. Et malgré tout, nous sommes à 8 jours des municipales, le logement est un sujet majeur dans les programmes des candidats. Il y a la crise dans les grandes villes, la crise pour accéder à un logement décent, il y a le mal-logement. Comment expliquer qu'en 2020, la France compte une personne sur cinq concernée par la crise du logement ? Avec notre reporter Anaël Verzo, nous allons zoomer ce matin sur la situation particulière des étudiants les plus modestes. Et puis l'invité du Mag Éco, c'est le délégué général de la Fondation Abbé Pierre, Christophe Robert, avec 54 autres organisations. Il interpelle les futurs élus. Il sera dans ce studio vers 9h45. Juste avant 10h, ça sera le moment de parler de nos vies au boulot. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra.
Énorme décision de justice cette semaine.
Ah oui, carrément explosive. La Cour de cassation a confirmé qu'un chauffeur Uber était bel et bien un salarié. Mais tous les travailleurs des plateformes comme Enzo, qui veulent rester indépendants, vont-ils devoir renoncer à leur statut ?
Enzo, c'est ce coursier qui vous a écrit. Vous lui répondez tout à l'heure. Tout de suite, et comme le dit le prix Nobel Paul Krugman, voici l'obstacle sur notre route. Alors, attachons-nous.
Mars 2020.
On va rester dans l'actualité à propos du coronavirus.
Un virus qui contamine aussi l'économie.
We have massive losses in the financial markets.
Debido a la epidemia del coronavirus,
l'OCDE a ramené sa prévision de croissance mondiale de 2,9% à 2,4%.
Après une semaine de dégringolade, là, la semaine dernière, c'était la pire semaine depuis la crise de 2008.
And this is not only hitting the supply chain, it's also hitting the demand.
Cette crise de santé publique va impacter toute l'économie.
Oui, bien sûr.
Je crois que...
Georges Hugeux.
La réaction des marchés boursiers a été extrêmement importante.
Ancien vice-président de la Bourse de New York.
Parce que l'élément du coronavirus a été un déclencheur d'une prise de conscience que nous vivons sur un volcan de dettes, mais aussi que l'économie est occupée à baisser. Et là, c'est si on continue à prendre des mesures aussi spectaculaires que celles qu'on prend, parce qu'elles arrêtent le fonctionnement de l'économie, et donc, si vous voulez, elles sont créatrices de récession.
C'est une crise...
Antoine Frérot.
Que je qualifierais de conjoncturelle.
PDG de Veolia.
Je pense que l'économie française n'en sera pas structurellement profondément affectée.
D'abord, c'est pas une crise financière.
Laurence Boone,
c'est plutôt un choc économique s'il devait se matérialiser.
Chef économiste à l'OCDE.
Et donc, c'est pas forcément une réponse des banques centrales dont on a besoin, mais c'est d'action de la part des gouvernements.
Puis l'autre instrument dont nous disposons, et je suis content qu'il figure dans le communiqué du G7,
Bruno Le Maire,
c'est l'instrument budgétaire.
Ministre de l'économie.
Il faut que nous soyons prêts, si on voit qu'il y a besoin de dépenses budgétaires supplémentaires pour relancer la croissance, soutenir l'activité. Prenez un exemple très concret, vous avez une entreprise qui fait de l'événementiel. Elle avait 10, 15, 20 contrats qui tombaient chaque jour, elle n'en a plus qu'un seul. Elle a 2, 3 mois de trésorerie, l'épidémie se prolonge. Il faut pas laisser cette entreprise disparaître. Il faut pouvoir lui offrir des solutions qui auront un coût budgétaire. Et l'État doit être là pour cela.
Quand vous êtes à la tête de la Chine ou de l'Italie, ou etc.
Jérôme Dédéian.
Vous voyez bien ces enjeux de faillite en série. Et vous dites qu'il faut que je refasse partir l'économie.
Associé de la société de conseil et de gestion, ERES.
Vous vous retombez avec une décision politique que je mets là sur la table. Une décision politique qui est extrêmement difficile à prendre, mais qu'on peut prendre par cynisme, qui est-ce que je préfère avoir un cycle économique qui est maintenu tant bien que mal et quelques dizaines de milliers de morts chez les plus âgés de ma population, ou est-ce que j'essaye de sauver à tout prix ma population au risque d'accroître le choc économique? Et cette décision politique-là, je suis content de ne pas être gouvernant.
Waouh! Alors, on va faire comme dans un épisode de Columbo, si vous voulez bien, Christian Chavagneux, Emmanuel Le Chypre. On va donner tout de suite la.
Ah oui!
L'idée. C'est Columbo, hein, ça nous parle à nous, les quadragénaires, quinca, tout ça. Le coronavirus peut-il être le détonateur de la prochaine grande crise? Emmanuel.
Alors oui, c'est possible. Il faut revoir ce qu'est la nature de cette crise. En fait, c'est finalement une pétrification de plusieurs grandes zones de la planète. Donc on peut avoir effectivement une activité qui se fige, qui se bloque totalement, avec une chute spectaculaire de l'activité, mais qui va durer le temps du virus, c'est-à-dire quelques mois, voire quelques trimestres, et après ça repartira. Donc on n'est pas dans une crise économique dans laquelle on va s'enliser durablement. Par contre, moi, ce qui me fait peur, c'est les réponses qu'on va apporter à cette crise. Et donc, récession technique brutale, oui, mais pas très longue. Et après, franchement, moi, ce qui me fait peur, est-ce que ça va dégénérer en crise? Oui, si les réactions de politique économique ne sont pas bonnes. Et oui, si les marchés financiers dans un monde surendetté paniquent.
Alors, avant d'entrer dans les détails, Christian, vous, oui, non?
Non, moi, à ce stade, non. Pas de grande crise, plutôt ce qu'on appelle une courbe en U, c'est-à-dire ça plonge et un petit peu de stagnation et ça repart, voire une courbe en V, c'est-à-dire
ça plonge
et ça repart. On n'est pas du tout dans le cadre d'une crise financière, en tout cas pas pour ces raisons-là, dans les mois qui viennent.
Alors certains croient au contraire à la crise en V. On va en parler. Depuis ces derniers jours, nous sommes dans un nouveau monde. On a eu, qui veut me rappeler les chiffres, hein, l'OCDE qui se mouille. Hein, c'est le premier organisme à se mouiller qui donne des chiffres.
Bah, l'OCDE, il donne deux scénarios. Il donne un scénario qu'on pourrait qualifier d'optimiste, c'est-à-dire, en gros, le coronavirus est jugulé d'ici la fin du printemps en Chine et il n'y a pas vraiment de pandémie mondiale. Là, on a un effet qui serait de 0,5% en moins sur la croissance mondiale, donc une croissance qui était prévue autour de à peu près 3%. Par contre, l'OCDE dit si la crise dure, au moins sur l'année, là c'est 1,5% de croissance en moins. Donc ça veut dire que, grosso modo, le coronavirus diviserait la croissance mondiale par 2 sur l'ensemble de l'année, avec évidemment la Chine le pays le plus affecté, les États-Unis le pays le moins affecté, moins 0,1% de croissance seulement, et puis au milieu l'Europe qui perdrait 0,2-0,3 points de croissance avec une France qui résiste plutôt bien.
Oui, c'est ça, une récession qui toucherait la France et le Japon dans le cas du scénario, pas le pire.
Il n'y aurait pas de récession en France. Hein.
On sera à 0,9. Un petit peu en dessous de 1%.
0,9, là, c'est contenu. C'est si d'ici fin mars, tout va bien.
Oui, mais qui reste le scénario majoritaire de l'OCDE pour l'instant.
Alors, quel mécanisme de... Il faudrait qu'on comprenne quand même ce qui se passe, Christian. Est-ce que vous pouvez nous dire ça? Emmanuel parlait de pétrification. Pour l'instant, si on regarde seulement l'écho, ça, c'est notre champ d'investigation. Qu'est-ce qui est en train de se passer du côté de l'offre, de la demande? Et pourquoi les marchés nous inquiètent? Voilà, il y a beaucoup de questions.
Alors, rappelons-nous déjà qu'à la fin du dernier trimestre 2019, on nous disait l'économie mondiale 2020, elle est flagellante. Donc on part déjà sur cette base-là, hein, sur une économie qui marchait pas très bien. Là, deux chocs, un choc d'offre. Il faut savoir que la Chine aujourd'hui produit 20% des produits intermédiaires, c'est-à-dire des produits qui servent à produire d'autres produits dans le monde. En 2002, c'était 4%. Donc elle est au cœur de ce qu'on appelle les chaînes de valeur ajoutée mondiale, là où les entreprises s'étendent sur tous les territoires du monde pour pouvoir produire. Donc là, évidemment, il y a un choc. On a beaucoup parlé du textile, mais la CNUSET, qui est la grande institution internationale qui suit toutes ces chaînes de valeur mondiale, nous dit le premier marché, c'est les instruments de précision qu'on utilise dans beaucoup d'industries. C'est là que les chaînes de valeur mondiale sont le plus affectées par la Chine. On a aussi la voiture. Et le troisième secteur, c'est ce qu'on appelle les équipements de télécommunication. En gros, les téléphones. Donc on a un effet surtout industriel sur l'offre, mais on a un effet sur la demande aussi. Et là, c'est beaucoup plus rusé, c'est beaucoup plus intéressant à analyser sur le plan économique. Pourquoi ? Parce que, évidemment, la Chine est fermée, vous avez 60 millions de personnes qui doivent rester chez eux. Donc la consommation chinoise, elle baisse. Donc nous, Européens, on peut moins vendre à la Chine. Ça, c'est facile, c'est le premier effet. Mais on a un deuxième effet qui est essentiellement sur les services, alors que l'effet d'offre était sur l'industrie, on a un effet de demande sur les services. Par exemple, le tourisme. Le tourisme, il faut savoir qu'il y a 150 millions de Chinois chaque année qui dépensent un peu plus de 280 milliards de dollars. Ça, c'est des Chinois, c'est des touristes.
Donc ça, c'est la demande chinoise.
On a perdu, ça, c'est la demande chinoise. Pareil pour le transport, pareil pour plein de secteurs, on a moins de demandes. Mais le Fonds monétaire international nous dit, ces effets d'offres, ces effets de demande que je viens de décrire, en fait, c'est un tiers seulement des effets économiques de la crise du coronavirus. Les deux tiers, c'est l'effet psychologique qui fait que les gens, par exemple, les particuliers disent « Ouh là là, c'est un peu risqué, j'épargne plus, donc consomme moins. » Et les entreprises qui disent « Oh, je voulais investir, mais c'est pas le moment, je n'investisse pas, je reporte. » Le FMI nous dit ça, cet effet psychologique, c'est les deux tiers de l'effet économique par rapport à seulement un tiers ce qu'on a décrit. Et attention, c'est là où l'analyse de la demande est rusée, c'est qu'il y a des facteurs qui soutiennent la demande, comme... on a de moins en moins d'activité économique dans le monde, les prix du pétrole s'effondrent et on regagne du pouvoir d'achat. Ça s'effondre en Chine, mais ça s'effondre moins chez nous. On gagne le pouvoir d'achat du pétrole.
Bah oui, mais si on est confiné à la maison, on va pas utiliser le pétrole pour aller travailler.
Mais pour l'instant, nous, on n'est pas confiné à la maison. Les Chinois le sont, mais pour l'instant, nous, on l'est pas. Et si on passe au fameux stade 3, les gens peuvent circuler. Donc nous, on va peut-être échapper au stade du confinement, comme l'a connu la Chine. Les dépenses de santé, elles explosent complètement. Eh oui, les dépenses de santé, elles explosent. Et puis, vous avez des magasins qui nous disent plus 50% à plus 100% cette semaine de vente de pâtes et de riz. Les petits écureuils qui font du stock parce qu'ils croient à la crise mondiale, ça aussi, ça soutient la demande. Donc, il va falloir mélanger tout ça pour savoir jusqu'où on sera à la fin de l'année.
Donc, on a bien compris. Oui, Emmanuel, c'est quoi cette menace?
Choc d'offre, choc de demande, oui. On pourrait ajouter choc de mobilité aussi, parce que dans une économie, quand vous voyez la chute du transport aérien, effectivement, c'est spectaculaire. Choc de confiance, effectivement, aussi, chez les gens, chez les marchés. Alors après, les effets, c'est sûr, mais bon, toutes les pâtes que les gens ont stockées dans leur placard,
oui,
c'est autant de pâtes qu'ils n'achèteront pas dans les mois qui viennent. Donc c'est vrai qu'il y a un effet secteur gagnant, secteur perdant. On a cité les secteurs perdants, il y a des secteurs gagnants dans tout ce qui est nouvelles technologies, tout autour.
Laboratoire pharmaceutique.
Toutes nos entreprises santé, qui font tout ce qui concerne le travail à domicile soulignons il y a des secteurs qui sont au bord de la faillite aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des secteurs entiers qui n'ont plus d'activité. Prenez les autocaristes par exemple, vous n'avez plus de transport scolaire, vous n'avez plus de touristes. Prenez tous ceux qui travaillent autour de l'événementiel aujourd'hui en France, qui n'ont plus d'activité, tous les salons sont fermés. Prenez les traiteurs par exemple, vous avez tous les métiers du spectacle, hein, et tout ça a la caractéristique d'être des métiers qui sont assez saisonniers, assez fragiles financièrement, et des métiers qui rentrent dans le printemps, qui est souvent leur haute saison, prenez tous les autocaristes par exemple, c'est le cas, et des métiers qui ont essuyé quand même plusieurs crises, les gilets jaunes, les grèves, etc.
Donc, il y a
une urgence majeure pour sauver quand même quelques secteurs très pointus.
Là, vous nous parlez de conséquences sur l'économie réelle, de secteurs très très précis. Est-ce qu'à un moment donné, j'ai l'impression que ça marche avec les mesures sanitaires, est-ce qu'à un moment donné, on peut imaginer que notre économie soit entièrement pétrifié? Est-ce qu'il y aura une façon de contagion qui fasse que ça s'arrête pour tout le monde et pas seulement pour certains secteurs?
Aujourd'hui, non, a priori. C'est vraiment très focalisé sur les secteurs qu'Emmanuel a décrit. Et peut-être que si vous vouliez aller au théâtre la semaine prochaine et vous y allez pas, vous irez peut-être un peu plus le trimestre suivant. Donc c'est pour ça qu'on nous dit aussi qu'on pourrait avoir sûrement au premier trimestre, peut-être un peu au deuxième trimestre, un effondrement, mais ça peut repartir très très vite. Faut savoir qu'en Chine, déjà, a priori, ça repart. Vous voyez la pollution qui revient, les embouteillages qui reviennent, ça veut dire que l'activité est en train de repartir.
On va justement passer un petit coup de fil, tiens, en Chine. On a notre correspondant Simon Leplâtre qui est à Shanghai. On va y aller.
On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd sur France Inter.
Bonjour Simon Leplâtre. Alors ce matin, on a besoin de vous pour nous le faire, ce bulletin de santé. Le coronavirus nous montre à quel point nous sommes dépendants de la Chine pour certains produits. Alors première question, est-ce que les usines chinoises, elles redémarrent ?
Bonjour Alexandra. La réponse est oui, mais doucement. Les vacances du Nouvel An lunaire ont été officiellement rallongées de 10 jours jusqu'au 10 février, mais en fait, beaucoup d'usines chinoises n'ont pas encore repris une activité normale. Il faut savoir que les vacances du Nouvel An sont d'habitude l'occasion d'une très forte mobilité professionnelle. Les salariés prennent leur bonus de fin d'année et changent d'entreprise après le Nouvel An. Donc il y a toujours une période de recrutement d'au moins 2 semaines dans les usines juste après le Nouvel An. Cette année, ce turnover est démultiplié par ces congés forcés. En plus, beaucoup d'ouvriers n'ont pas pu regagner leur lieu de travail avant mi-février au mieux, puis ils ont dû passer 14 jours chez eux en quarantaine à leur retour. Donc ce n'est qu'en ce moment, début mars, que l'activité commence à reprendre à peu près normalement pour les usines, sauf évidemment dans le Hubei qui reste complètement fermé. Ce sont 56 millions d'habitants et beaucoup d'usines, dans l'automobile notamment, qui ne peuvent pas fonctionner.
Et alors Simon, le résultat c'est quoi ? Est-ce qu'on est proche d'un retour à la normale ?
Pas encore. En fait, les autorités locales sont prises entre deux feux. Il faut reprendre l'activité, mais il faut aussi éviter de nouveaux foyers d'épidémie. Et les deux ne vont pas bien ensemble. D'après une banque d'investissement chinoise, cette semaine, le taux de reprise du travail des entreprises est de 70% pour l'instant, ce qui reste assez faible. Mais la pression est telle pour les responsables locaux que certains ont demandé à des entreprises d'allumer les lumières, la clim et de faire tourner les machines pour consommer l'électricité pour faire croire à Pékin que les usines tourner normalement. Bref, l'activité est encore loin d'avoir complètement repris, mais les vieilles habitudes des bureaucrates chinois, elles, n'ont pas cessé de fonctionner.
Simon Leplâtre avec nous depuis Shanghai. Merci Simon. Christian Chavagneux, donc
oui,
voilà votre réponse
sur la Chine. J'ai vu cette étude, mais quand même 70% de taux de reprise, c'est quand même pas si mal, alors qu'on est en plein au cœur de l'épidémie. 95% des morts, c'est en Chine. 82% des cas, c'est en Chine. Donc attention à pas en faire une épidémie mondiale, pour l'instant en tout cas.
Et alors, il y a la question quand même, Emmanuel Le Chip, des marchés financiers. On a vu, alors ils ont pris moins en Europe comme à Wall Street, hein, moins 13% la semaine dernière, c'est quand même une chute sévère. Cette semaine, ça a démarré, il y a eu un petit rebond là avec Biden, mais en fait à Wall Street, ça a chuté de nouveau. Est-ce que ça a un rapport direct ? Est-ce que ça s'explique seulement par les marchés, par le coronavirus ? Est-ce qu'il y a autre chose derrière ? Est-ce que ça peut contaminer ? Dites-nous comment,
l'économie
réelle.
C'est bien pour ça que le danger, il est vraiment là. C'est-à-dire qu'on voit bien, on a un choc ponctuel sur l'activité, ça va redémarrer parce que la situation financière des entreprises et des ménages, elle est la même qu'avant le coronavirus. D'ailleurs, l'OCDE nous dit qu'en 2020, toutes les prévisions de croissance sont révisées à la hausse parce qu'il y aura un effet rebond. Donc moi, ce qui me fait peur, c'est ça. 2021, pardon. Moi, ce qui me fait peur, c'est la mauvaise réaction de politique économique et notamment de la part des banques centrales qui dégénérerait en crise financière qui, elle, aurait un vrai impact après sur l'activité économique. La décision de la Réserve fédérale américaine cette semaine de baisser de façon très importante ses taux d'intérêt hors d'une réunion habituelle. Ça ne s'est produit ces derniers temps qu'en 2008, qu'en 2001. Et donc, si vous voulez, les marchés financiers se disent « Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe ?» La situation est finalement assez catastrophique et vous avez une espèce d'effet contre-productif finalement à cette décision qu'on ne comprend pas très bien. La Réserve fédérale, elle vous dit, il y a 10 jours, on ne prendra pas de mesures préventives. Là, on vous dit, cette semaine, on a pris une mesure préventive.
Et peut-être qu'on en prendra d'autres.
Et on a du mal à l'expliquer. Alors on se dit « Ok,
si, on peut l'expliquer.
On veut que la Réserve fédérale maintiennent à tout prix les marchés financiers parce que le moteur de la consommation aux États-Unis c'est l'enrichissement financier. Et donc, ils veulent absolument éviter la baisse des marchés.
Est-ce qu'ils
vont réussir ? Oui, mais ça, c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, le comité de la Fed, à l'unanimité, ne peut pas prendre une décision pour favoriser un candidat ou un président sortant plutôt qu'un autre.
Bon, alors,
non, mais les yo-yo de la bourse, honnêtement, on n'en a rien à faire. Surtout nous, les Européens, plus 10, moins 5, il y en a tous les jours. Il n'y a que ceux qui ont des actions que ça intéresse. Donc, ça intéresse plus les Américains.
La moitié des Américains.
Voilà, ça intéresse plus les Américains que les Européens, parce que comme l'a dit Emmanuel, il y a un effet de richesse. Si le prix des actions que vous détenez baisse, et ben vous vous dites « Ah ben, je suis plus pauvre », même si ça va remonter le jour d'après, et donc vous consommez moins. Et donc la Fed a voulu répondre à ça. Vous avez raison, Alexandra, il y a aussi une élection qui vient, donc on va pas décourager, pas Billancourt, mais Détroit aux États-Unis. Et puis il y a quand même cette idée que, vous savez, si vous prêtez de l'argent à quelqu'un à très court terme, ben, le taux d'intérêt doit être inférieur à si vous prêtez de l'argent à quelqu'un à plus long terme, parce que plus c'est long, plus vous prenez de risques. Et aux États-Unis, comme tout le monde panique un peu partout dans le monde, on va plutôt acheter plein de choses en dollars, ce qui fait que les taux d'intérêt à long terme américains sont devenus très 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 bas, inférieurs au taux de court terme. C'est pas normal. Donc la Fed a dit, il faut que je remette tout ça à l'endroit. Elle a baissé ses taux de court terme.
C'était une bonne occasion en même temps. C'est ça que vous êtes en train de dire.
Exactement. C'était une bonne occasion de remettre les taux d'intérêt à l'endroit. Et en plus, à ce moment-là, vous avez le dollar qui est moins intéressant. Et à ce moment-là, ça fait une dépréciation du dollar, ça redonne de la compétitivité aux produits américains.
Et alors, ça allège la pression sur beaucoup de pays émergents qui sont alignés sur le dollar et qui sont en difficulté aujourd'hui. Donc c'est voilà. Mais l'autre sujet qui est quand même très inquiétant, c'est pas la bourse, c'est la dette des entreprises. Et il faut savoir que les entreprises aux États-Unis,
en France aussi,
notamment, et en France un peu aussi, se sont endettées ces dernières années à taux quasiment nul. En gros, le risque ne valait plus rien et le temps ne valait plus rien. Ce qui est à craindre aussi, c'est qu'il y a une forme de remise à zéro des compteurs du risque aussi avec cette, et que les entreprises et que les investisseurs se disent finalement, ah mais attendez, là cette entreprise là elle paye pas assez cher ses taux d'intérêt, et donc qu'il y ait une forme d'à nouveau de hiérarchie des risques. Oui, mais ça peut coûter très cher à certaines entreprises aussi. Donc je pense que c'est tout ça qu'on a voulu éviter dans un monde qui est très endetté. Évidemment, le moindre petit accident sur
la
route,
du coup la question c'est celle de la politique budgétaire. C'est à côté des banques centrales, que peuvent faire les États? Je pense que les États, ils peuvent faire plusieurs choses. Soit simplement un soutien à la santé, etc. Soit aussi un soutien très ciblé pour les PME, par exemple, qui ont des difficultés. Soit, comme l'a fait l'Italie, un plan de relance budgétaire général. Et là, si on se rappelle ce que je disais tout à l'heure, un tiers des effets directs, mais deux tiers des effets indirects de la crise liés à la psychologie, peut-être qu'il faut aller plus loin que des mesures ciblées pour aider les entreprises qui sont touchées. Un plan de relance général, des baisses de taux d'intérêt, des interventions des banques centrales, ça permet de redonner de la confiance générale. Et peut-être que ça aussi, ça peut être une bonne réponse.
C'est le message, pas de panique, quoi.
Il y a un élément qui serait très important aussi pour aller dans ce sens, c'est la coordination.
Parce que, comme disent les économistes, c'est un choc asymétrique. C'est-à-dire, ça touche pas tous les pays de la même façon. Pourquoi est-ce que tous les pays devraient réagir de la même façon alors qu'ils sont pas touchés de la même façon?
Parce que sur les politiques monétaires, Christian.
C'est pas dit que sur les besoins de la coordination.
Christian, si toutes les banques centrales avaient annoncé des mesures en même temps, etc., ça aurait pas eu du tout le même effet que la banque centrale américaine.
Il y avait pas besoin,
qui
Emmanuel.
Décide tout seul dans son coin.
En Europe, on n'est pas touché. On n'est pas touché pareil que les Australiens ou que le Canada et pas pareil que les États-Unis. Pourquoi est-ce qu'on aurait fait
toutes les grandes catastrophes financières, le crack de 87, la crise de 2008, ont en partie eu pour origine une mauvaise coordination entre les banques centrales.
On n'en est pas là du tout.
Oui, je rappelle que vous avez commencé par nous dire que ça ne serait pas si grave que ça.
Mais oui.
Emmanuel Lechypre.
C'est pas tout à fait ce qu'on a dit. On a dit que sur le plan de l'activité en soi, c'était pas grave. Ce qui était à craindre, c'était la mauvaise réaction des marchés financiers et la mauvaise réaction de politique économique.
Alors, pas si grave que ça.
C'est comme dans le Colombo, on rappelle à la fin ce qu'on a vu au début.
Quelle jeunesse. Emmanuel Lechypre et Christian Chavagneux, les débatteurs du samedi. Merci à vous. Et néanmoins, malgré tout cela, nous irons au bureau de vote dimanche prochain. En tout cas, à 7h, c'est ce qui est prévu. Alors à venir, dans la prochaine demi-heure, un sujet qui prend de l'ampleur dans les programmes, c'est le logement. Le délégué général de la Fondation Abbé Pierre, Christophe Robert, sera dans ce studio dans 10 minutes. Et nous, ce matin, nous allons regarder de près le sujet du logement pour les étudiants les plus modestes. Tenez, direction le Nord, notre reporter Anaël Verzo est allé sur le campus de Villeneuve-d'Ascq.
On se trouve sur le campus de l'université de Lille Villeneuve d'Ascq et on se trouve avec...
Brahim.
Brahim, toi t'es étudiant ici. Hein.
C'est ça, c'est ma cinquième année d'études, master 2 de management et commerce international.
Et tu vis ici, dans la cité universitaire.
C'est ça.
On va rentrer à l'intérieur, mais là déjà sur le chemin, j'ai vu qu'il y avait une petite inscription là sur l'arbre. Il y a écrit « Resto du cœur ».
En fait, la résidence Gallois accueille les Restos du Cœur dans le bâtiment de l'accueil, tout simplement. Donc les étudiants ont la possibilité de venir récupérer de la nourriture gratuitement pour se nourrir.
Je viens pour les cafards épinaises.
Il y a des cafards ici.
Là, par exemple, vous regardez sur le sol, devant une porte, vous avez un carton.
Ah, à ce moment-là, oui, là, il y a un carton sous la porte qui a été scotché pour pas que les cafards rentrent.
C'est ça.
Merci, c'est gentil. On te dérange en pleine cuisine, ça sent très bon d'ailleurs.
En fait, je fais tout possible, par exemple, pour pas garder de la bouffe ouverte, parce que si tu gardes de la bouffe ouverte, tu peux plus consommer. Parce que les cafards, ils vont entrer.
Tiens, regarde derrière toi, là.
Ouais. En fait, au final, tu t'y habitues, quoi.
Mais juste derrière toi. Tu fais des études de quoi ?
Communication, en master 2.
Et tu payes combien pour cette chambre ?
204,20€.
204,20€.
Bah, on dira que 200€, c'est pas cher, mais pour un étudiant, 200€, c'est beaucoup. Et t'as la cave qui prend que 30€. Donc,
t'as combien par mois pour vivre ?
Genre 700. Mais vu que je travaille sur Paris, le transport, il me prend un quart du salaire, quoi.
Ah, tu travailles à Paris ?
Ouais.
Ça veut dire dimanche, tu travailles ?
Ouais.
À Paris ?
Ouais. Je suis à Primark, employée de trésorerie.
Et est-ce que t'as de la famille qui peut t'aider financièrement ?
Non, non. Parce que ma sœur, elle est encore étudiante.
Et tes parents ?
Non, parce que j'ai perdu mon père et ma mère. Donc, c'est pour ça que je me prends toute seule en charge.
J'espère que personne n'a de phobie aux insectes. Restez avec nous. 2 700 000 étudiants en France, ça fait du monde à loger. Hein. 30% vivent chez leurs parents, pas de problème. Mais 7 sur 10 sont obligés de décohabiter. Le post-logement, il absorbe en moyenne la moitié du budget d'un étudiant. Évidemment, c'est un chiffre global et pour certains, la réalité est encore plus difficile. On a tous encore en mémoire l'immolation de cet étudiant en novembre dernier. Un choc. Alors que faire pour loger mieux et plus les élèves du supérieur ? Retour sur le campus de Villeneuve-d'Ascq. C'est toujours Anaëlle Verzo qui tient le micro. T'en arrêtes pas l'écho.
Et les bourses, elles sont de combien ? Ouais. Brahim, toi t'as une bourse ?
Ben, ça dépend de votre échelon. Donc on calcule votre échelon par rapport au revenu de vos parents, l'éloignement du lieu d'études et puis du lieu de résidence de vos parents et le nombre de frères et sœurs dans l'enseignement supérieur.
Et pour toi, t'es à quel échelon ?
Moi, cette année, je suis à échelon 2, donc j'ai 254€ par mois, il me semble, versé par le CROUS. J'ai eu des échelons différents. Première année, j'étais échelon 4.
4, ça veut dire combien par mois ?
Échelon 4, bah, du coup, on passe de 250 à 320. Donc, il y a quand même une petite différence quoi, pour un étudiant.
Et pourquoi t'es passé de échelon 4 à échelon 2 maintenant ? Qu'est-ce qui a changé dans ta situation ?
Bah, en fait, il y a mon grand frère qui avait déclaré ses revenus d'alternance avec mes parents. Lui a fini ses études et du coup, bah, ça a fait baisser le nombre de frères et sœurs dans l'enseignement supérieur, augmenter le revenu fiscal de référence. Après, mon petit frère a commencé ses études l'année dernière. Donc là, ça m'a fait réaugmenter. Mais mon frère jumeau a décidé d'arrêter son master parce que ça lui plaisait pas. Du coup, bah, ça a recompensé. Enfin, du coup, en master 2, là, je me retrouve échelon 2. Donc tous les ans, des évolutions comme ça.
Ça bouge. Exactement. En fonction de la situation de tes frères et sœurs et de tes parents. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils font ?
Ils sont ouvriers dans l'automobile dans le Pas-de-Calais. J'ai jamais demandé à mes parents de m'aider. Enfin, je veux dire... Ils ont 5 enfants, ils sont ouvriers, même s'ils sont en CDI, c'est compliqué. Et parfois, du coup, on se retrouve, même moi, parfois, je me retrouve à prêter de l'argent à mes parents.
C'est toi, tu travailles, en plus de tes études ?
Là, je suis en CDI à temps partiel. Je suis,
où ça ?
Chargé de clientèle EDF, centre d'appel, 10 heures par semaine.
Tu fais quand même 10 heures par semaine en plus de ton travail ici,
en plus
l'étudiant.
De mes études, ouais, c'est ça, donc c'est compliqué.
C'est compliqué et en même temps, Brahim, il sait qu'il a quand même de la chance. Il fait partie des 12% d'étudiants à qui le CROUS a trouvé une place en résidence universitaire. Résidence universitaire pour lesquelles il y a deux problèmes, le délabrement et la pénurie.
Bonjour, Dominique Marchand, je suis présidente du CNUS, qui est le Centre National d'Établissement Public National, qui a vocation à piloter les 26 CROUS de France, dont la mission est d'accompagner tous les étudiants, mais en particulier les étudiants qui peuvent rencontrer des difficultés sociales dans l'ensemble des domaines, logement, bien sûr, mais aussi restauration, bourse et vie étudiante.
Alors vous avez 175 000 logements, je suis allée à Lille visiter donc une résidence étudiante. Est-ce que toutes les résidences sont comme ça ?
Non, bien sûr que non. Alors parmi ces 175 000 logements, il y a une très grande partie de logements qui sont neufs, une partie de logements qui ont déjà été réhabilités. La réhabilitation est la première des priorités, nous consacrons à peu près 75% de nos financements à cet ordre. Il nous reste à peu près, sur le patrimoine ancien, un peu moins de 20% de logements à réhabiliter.
Quand est-ce que vous pensez pouvoir mener ces opérations de réhabilitation ?
Bien, nous avons là un horizon qui est de terminer toutes les réhabilitations globalement sur l'ensemble du territoire national à l'horizon 2023-2024 au plus tard, de manière tout à fait réaliste.
Alors, il y a la réhabilitation, il y a aussi les logements neufs, il y a un plan gouvernemental pour 60 000 nouveaux logements. Où est-ce qu'on en est de ces constructions ? Est-ce que d'après vous, c'est faisable d'avoir 60 000 nouveaux logements sociaux pour les étudiants ?
Objectivement, ce ne sera pas simple d'arriver à la construction de 60 000 logements en l'espace de quelques années.
Pardon, quand vous dites que ce ne sera pas simple, c'est que ce ne sera pas réalisable du tout d'en avoir 60 000 ou...
De toute façon, je pense que nous sommes à minima sur le même trend que le plan précédent.
Donc à 40 000.
Voilà, tout acteur confondu. Mais de toute façon, il faut maintenir ces objectifs-là parce que le besoin est réel.
Pour quelle raison est-ce que 60 000, c'est pas faisable ?
Parce qu'il y a une contrainte forte sur les aspects fonciers. Il manque de fonciers dans des endroits qui correspondent aux attentes et aux besoins des étudiants.
Pas assez de terrains disponibles et aussi, ça s'est vu, des maires qui parfois n'ont pas envie de voir venir cette jeune population sur leur territoire. Donc le problème perdure et il est au sommet de la pile des dossiers urgents d'Orlane François, la présidente du premier syndicat étudiant, l'AFAGE.
Si on se concentre déjà sur le parc privé, qui est quand même l'endroit où les étudiants sont le plus logés, il faut travailler sur la question des loyers. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'on a une explosion des loyers, notamment sur les logements étudiants. Donc nous, ce qu'on demande depuis plusieurs années maintenant, c'est la mise en place dans chacune de ces villes universitaires et en tension de l'encadrement des loyers.
D'accord, donc ça c'est pour le privé et dans le public.
Et dans le public, il y a 175 000 logements disponibles dans le parc social du Crous, ce qui est moins de 10% au final des étudiants qui décohabitent, c'est-à-dire qui partent de chez leurs parents. Ça concerne trop peu d'étudiants. Les gouvernements précédents et celui qui est actuellement aussi en mandat ont lancé à tour de rôle des plans de construction. Donc on a eu le plan 40 000, puis le plan 60 000 depuis ce mandat. Mais on se rend compte que pour l'instant, dans les prédictions qu'on peut avoir de la part des services des ministères, on serait sur une réalisation de seulement 40% d'ici à la fin du quinquennat.
Alors là, je rebondis sur une tribune qui a été écrite par Marc Prévost, qui est un ancien haut fonctionnaire spécialiste du logement et responsable du plan 40 000, puis du plan 60 000, en partie en tout cas jusqu'en 2019. Là, il est parti à la retraite, il est devenu spécialiste du logement. Et lui, il dit, cet échec du plan 60 000, c'est à cause de la baisse des dotations au HLM, qui pourtant avait réalisé 83% des 40 000 constructions entre 2013 et 2017, donc du plan 40 000. Et du coup, il demande au gouvernement de redonner ces dotations au HLM.
Bien sûr, enfin, y a plusieurs choses à faire. C'est de réenchanter vraiment ce plan 60 000 en poussant plus fort et surtout en ayant une enveloppe budgétaire qui soit à la hauteur des attentes qui sont mises sur le papier.
Donc pour Orlane François, il faudrait à la fois plus de moyens et plus d'énergie, d'autant que le problème est ancien et va s'aggraver. Brigitte Bariol est la déléguée générale de la Fédération nationale des agences d'urbanisme. Qu'est-ce qui fait que ça s'est aggravé ces 10-15 dernières années ? Qu'est-ce qui fait que maintenant c'est beaucoup plus difficile que ça ne l'a été pour un étudiant de trouver un logement adapté et à moindre coût ?
Tout d'abord, le coût du logement a augmenté partout. Et puis, il y a eu déjà un premier pic d'augmentation de la démographie étudiante, la génération des en 2000. Et il va y en avoir un nouveau, la génération des en 2006, qui va conduire à devoir accueillir environ 200 000 étudiants de plus, les loger en 2025.
Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les choses s'améliorent ?
Alors, déjà, les résidences étudiantes dédiées, il faut en construire de nouvelles. Et il faut aussi permettre aux étudiants de se loger dans le parc en locatif avec des modalités adaptées, par exemple des baux qui permettent des locations de courte durée et aussi sécuriser qu'ils puissent y rentrer en ayant des garanties.
Est-ce que l'encadrement des loyers, ça fait partie des mesures qui, selon vous, pourraient être efficaces ?
Ça peut être une des solutions sur les marchés très tendus, par exemple l'Île-de-France, mais il n'y a pas un modèle unique. Chaque collectivité doit trouver la réponse adaptée à ses propres problématiques. Par exemple, Poitiers, qui est une ville très étudiante, où peut-être plus du quart des logements est occupé par des étudiants, à gérer plutôt des problèmes d'occupation du logement. Une ville comme Grenoble, qui a des loyers assez chers, doit favoriser une accession plus abordable aux étudiants. Chaque ville a sa spécificité auxquelles elle doit répondre en mettant les acteurs autour de la table pour trouver les solutions adaptées.
Les étudiants face au mal logement, c'était le reportage d'Anaël Verzo.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10, on n'arrête pas l'écho, Alexandra Ben Saïd.
Et le délégué général de la Fondation Abbé Pierre est dans ce studio. Bonjour Christophe Robert.
Bonjour.
Alors là, vous venez de l'entendre, ce reportage. Nous avons zoomé sur les étudiants, mais le mal logement en France, ça concerne 4 millions de personnes. Mmh. Et même 15 millions si on comptabilise ceux qui vivent dans des logements trop petits, ou sans confort, ou tous ceux qui renoncent à se chauffer. Qu'est-ce qu'ils nous disent, ces chiffres qu'on prend là à un moment, 2019-2020, mais est-ce que c'est en train de s'aggraver ?
Tout dépend de quoi on parle. Si on parle par exemple de la qualité des logements, depuis une quarantaine d'années, ceux qui ont la chance d'avoir un logement ont vu la qualité s'améliorer. On a une salle de bain, on a des toilettes dans le logement. Mais il y a des indicateurs qui s'aggravent. Le nombre de personnes sans domicile, les deux enquêtes de l'INSEE qui existent à ce jour, 2001-2012, ont montré une augmentation de 50%. Le surpeuplement augmente dans les grandes villes. La précarité énergétique, le fait de ne pas pouvoir se chauffer convenablement parce qu'on a une passoire thermique ou parce que l'énergie est trop chère ou parce qu'on n'a pas assez de ressources. C'est 12 millions de personnes qui sont touchées. Donc tout dépend des sujets, mais clairement, on voit bien que les indicateurs qui se dégradent sont liés à la cherté. C'est exactement ce qu'on vient d'entendre sur la question du logement étudiant. Tous les étudiants sont pas mal logés. Mais ceux qui n'ont pas la chance d'avoir de la solidarité familiale, d'avoir des ressources, d'avoir des appuis, des aides, sont livrés à eux-mêmes et donc sont livrés à un marché qui n'est pas adapté à la réalité de leur capacité financière. Donc s'il n'y a pas de protection sociale, s'il n'y a pas de réponse via par exemple du logement étudiant en nombre suffisant, eh bien ils vont se rabattre vers des solutions indignes, mauvaise qualité, logement dangereux, logement trop petit, trop loin du lieu où on étudie, où on travaille, si on parle des travailleurs.
Christophe Robert, vous venez de le dire, tout le problème c'est quand le revenu des ménages est en inadéquation, qu'on ne correspond pas au coût du logement. Que dire de la politique qui est menée actuellement ? Est-ce qu'elle aide ces Français qui sont face à cette équation qu'ils ne savent pas résoudre tout seuls ?
Tout dépend de quoi on parle, parce que si on parle des leviers de la protection sociale dans le domaine du logement, les deux principaux leviers, c'est le logement social et les APL, les aides personnelles au logement, qui justement sont là pour essayer d'aider ceux qui, dans les conditions actuelles du marché, ne trouvent pas chaussures à leurs pieds. Et donc, on va leur donner un coup de pouce. Alors, il y a des politiques, par exemple pour les personnes sans domicile, on voit qu'on augmente le nombre de places d'hébergement d'urgence, d'hôtels sociaux, donc on ne dit pas qu'il n'y a pas de réponse sociale. Mais ces deux leviers, les APL et le logement social, sont bien malmenés par le gouvernement depuis 2 ans et demi, parce que le logement était considéré comme un des leviers majeurs de baisse de la dépense budgétaire de l'État. Et si on prend l'année 2020 et qu'on cumule toutes les économies qui ont été faites sur les APL ou sur le logement social, on est à 3,9 milliards de baisse de dépenses budgétaires de l'État. Donc, on peut avoir des politiques sociales à certains moments qui vont plutôt dans le bon sens. Je pense au logement d'abord, je parlais de l'hébergement d'urgence. En tout cas, il y a une préoccupation sociale du gouvernement. Mais comme simultanément, on fragilise ces deux leviers de la protection sociale dans le domaine du logement, on risque de créer des désordres supplémentaires. Et puis, on a un manque de construction tout court, manque dans les grandes villes, manque de construction de logements sociaux, ce qui crée des tensions très fortes et des inquiétudes pour l'avenir.
Alors justement, elles sont où les solutions ? Si on regarde le parc privé, si on écoute le reportage, on entend que l'encadrement des loyers serait une solution. Mais à Paris, on est bien placé, à Paris où nous nous trouvons actuellement, on est bien placé pour voir que les familles modestes, même avec des loyers encadrés, elles ne peuvent pas se loger.
Alors, d'abord, l'encadrement des loyers, tel qu'il a été pratiqué avant d'être annulé au tribunal administratif pour des raisons techniques, on va dire, a montré son efficacité. C'est-à-dire que le modèle qui était envisagé en France, il y a d'autres modèles en Allemagne, en Suisse, sur les manières de faire, a montré que on faisait baisser les loyers les plus élevés. C'est-à-dire que l'encadrement des loyers pensé en France avec la loi Allure à l'époque, en 2013, c'était de dire on fait pas n'importe quoi, donc les loyers excessifs, non, ça suffit, il faut qu'ils redescendent à un niveau plus adapté. Ça a marché. Et dès que ça a été annulé au tribunal administratif pour des raisons techniques, c'est reparti à la hausse. Donc il faut impérativement, et là c'est une sollicitation aux maires, aux listes, aux municipales, que alors qu'aujourd'hui le gouvernement a redonné la possibilité d'expérimenter cet encadrement des loyers, c'est jusqu'en octobre prochain que les mairies peuvent candidater. Paris est déjà engagé, Lille est déjà engagée, il faut que les villes où les loyers sont trop élevés s'engagent dans cette démarche-là. C'est à la fois une philosophie politique et puis c'est une réponse concrète pour les gens de faire baisser les prix, absolument.
Juste une idée, une autre forme de propriété, ça c'est ce que les députés ont voté. On pourrait posséder les murs de sa maison mais pas le terrain, ça est-ce que ça vous intéresse ?
Ah oui, complètement. Complètement, c'est les offices fonciers solidaires, c'est la dissociation du foncier et du bâti. Si vous voulez, On sait très bien que l'immobilier crée des inégalités. C'est-à-dire que quand on regarde le patrimoine des ménages, il est composé aux deux tiers de l'immobilier. Et au fond, il y a une spéculation extraordinaire sur la question du logement, des terrains, de l'immobilier dans son ensemble. Et donc, l'idée, c'est de dire, il y a une collectivité, par exemple, qui va être propriétaire du foncier, qui va maîtriser finalement ses hausses. Elle va dire, moi, je suis propriétaire, mais je vous donne la possibilité d'être propriétaire des murs. Donc, qu'est-ce que ça permet ? D'abord, de dépenser moins, parce que vous n'achetez pas les murs. Et puis, ça permet d'éviter les pratiques spéculatives ou les mouvements spéculatifs. C'est-à-dire que si jamais vous avez acheté en dissociant le foncier du bâti, le foncier ne vous appartient pas. Et le jour où vous allez revendre, vous n'allez pas avoir la plus-value. Et donc, il y a une maîtrise et une accessibilité sociale, par exemple à la propriété, plus importante. Donc c'est tout à fait intéressant ce type de pratique.
Alors ça fait, je ne sais pas si c'est dans les propositions de votre pacte du pouvoir de vivre, c'est dans les propositions. Voilà donc 66 propositions depuis un an que vous avez présentées à toute la France, vous et 54 autres organisations, vous avez fait un tour de France. Au niveau national, vous avez eu quelle réponse au niveau national du gouvernement ?
Écoutez, ce pacte du pouvoir de vivre qui rassemble 55 organisations environnementales, de lutte contre l'exclusion, des syndicats, des mutuelles, il dit voilà, on peut plus dissocier la question sociale et la question écologique. Et puis, il faut changer d'échelle, on peut plus attendre. Enfin, en gros, on se disait, ça suffit plus de s'indigner, il faut proposer, il faut qu'on établisse un rapport de force avec les pouvoirs publics au niveau national et local.
Et donc ce rapport de force, ça donne quoi?
Au niveau national, écoutez, on a rencontré le Premier ministre le 27 août dernier, au titre du pacte, on a fait part de nos propositions, il nous a dit, vous allez maintenant travailler avec chacun des ministres. Alors, il y a eu quelques rencontres, mais on ne sent pas un grand engouement. Parce qu'à un moment, nous on dit, écoutez, il ne suffit pas de dire pour que ça se fasse. Il faut des moyens financiers importants, il faut des objectifs ambitieux, on ne peut plus faire comme avant. Il faut changer nos méthodes, il faut changer la manière de concevoir l'économie. Et par exemple, le ministre des Finances, le ministre nous a pas reçus, si vous voulez. On a comme un sentiment de dire, écoutez, occupez-vous des pauvres, occupez-vous de vos sujets, Non, tout est lié, il faut une énorme ambition, on ne peut plus faire comme avant. Et c'est vrai qu'il y a une forme de réticence de la part de l'exécutif. Oui, il y a une déception, parce que nous, on est 55 organisations qui prennent des bénévoles, des salariés, des experts. On a une expertise de terrain, on a envie de faire, on est contributif, on est collaboratif.
Du coup, là, vous interpellez les maires. Vous dites, nous, on vous donne 10 propositions, c'est ça maintenant que vous faites ?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que on sait qu'il y a des enjeux majeurs à l'échelle nationale. Et c'est pour ça qu'on se préoccupe de l'exécutif sur les questions du projet de loi de finances, sur la redistribution fiscale, sur la solidarité. C'est déterminant le rôle de l'État dans ces fonctions-là. Mais il faut que tout le monde s'y mette dans cette histoire. Nous, les maires, etc. Donc on a proposé 10 mesures incontournables sur la question des cantines bio, sur la question des mobilités douces, sur la question de la lutte contre la précarité énergétique, l'encadrement des loyers, sur les questions de santé. En disant, si on met en œuvre ces 10 mesures prioritaires, vous pouvez les retrouver sur notre site du Pacte du Pouvoir de Vivre, eh bien, déjà, on peut changer la donne.
Mais qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que ce sont les maires qui doivent vous dire, vous allez les estampiller? Comment vous voulez que, vous parlez de rapport de force, donc comment vous voulez le créer, ce rapport de force?
Écoutez, c'est l'idée de dire, on voit bien que dans les programmes des candidats aux élections municipales, ces questions-là émergent. C'est plutôt satisfaisant, la question écologique, la question sociale. On a l'impression que tout le monde est social et écolo. Nous, on dit oui, mais, et c'est ce qu'on dit surtout aux citoyens, regardez de plus près. Quels moyens vont être mis sur la table? Quels objectifs? Quelle ambition? Aussi, dans l'idée d'outiller les citoyens pour qu'ils puissent suivre, alors à la fois qu'ils choisissent au moment de mettre leur bulletin de vote, mais aussi pour pouvoir suivre ces politiques. Nous, on veut être constructif, on veut y croire, on dit il n'y a pas de fatalité, mais ça se joue concrètement dans les investissements que l'on va faire, dans les ambitions qu'on va déployer.
Christophe Robert, une dernière question quand même, parce que l'actualité nous y conduit, le coronavirus. Est-ce que vous, ça vous intéresse particulièrement à la Fondation, ça vous inquiète, pardon, particulièrement à la Fondation Abbé Pierre?
Oui, je crois que toutes les associations qui viennent en aide aux personnes sans domicile sont assez inquiètes, parce que je pense par exemple à tout le secteur de l'hébergement ou les accueils de jour que nous avons nous à la Fondation Abbé Pierre. On est face à des personnes qui sont en grande fragilité, souvent de santé, et donc il y a des regroupements aussi parce que c'est des centres d'hébergement, il y a encore même des formules d'hébergement qui sont en lit picot ou bref, avec des collectifs, il faut impérativement, mais nous avons déjà rencontré le ministre de Normandie, nous le rencontrons vendredi prochain pour anticiper ces risques-là. Et vraiment, considérer qu'on a déjà des personnes qui sont en très très grande fragilité, il faudrait mettre le paquet absolument pour pouvoir les protéger davantage.
Christophe Robert, le délégué général de la Fondation Abbé Pierre, merci d'avoir été sur France Inter.
Merci à vous.
Sandrine Foulon, c'est un tsunami pour les plateformes numériques. La Cour de cassation a confirmé qu'un chauffeur Uber était bien un salarié, mais que va-t-il se passer? Vous demande Enzo, il est coursier à vélo, si on veut rester auto-entrepreneur.
Eh bien Enzo, vous restez indépendant. Cette décision de justice va évidemment faire des vagues, mais il n'y a que les travailleurs indépendants qui attaquent la plateforme devant les tribunaux qui auront toutes les chances d'être requalifiés en salariés. C'est ce qui est arrivé aux conducteurs de VTC à l'origine de l'arrêt de la Cour de cassation de ce mercredi. En 2017, il a travaillé quelques mois pour Uber qui a désactivé son compte sans explication et les juges ont estimé qu'il y avait bien un lien de subordination entre ce chauffeur et l'opérateur californien. C'est pas nouveau. En 2018, la Cour de cassation avait aussi jugé qu'un livreur de la plateforme Take It Easy était en réalité un salarié. Parce qu'il y avait un système de géolocalisation et de sanctions, des strikes qui donnaient à la plateforme un pouvoir de sanction comme celui d'un employeur. Mais là, c'est encore plus explosif parce que ça peut toucher tous les opérateurs numériques. Les magistrats considèrent qu'en se connectant à la plateforme, le chauffeur Uber ne peut pas librement choisir ses tarifs, ni se constituer sa propre clientèle, ni connaître sa destination finale. Bref, que son statut d'indépendant est fictif.
Du coup, est-ce que c'est la fin du modèle économique type Uber ou Deliveroo?
Uber revendique 30 000 chauffeurs inscrits. Ils ne vont pas tous demander à être requalifiés. À Paris, une centaine de procédures sont en cours. Mais tous les indépendants qui pensent qu'ils font un boulot de salarié, mais sans en avoir les avantages, sans l'assurance chômage, sans les congés payés, pourraient être tentés de pousser la porte des prud'hommes. La menace est réelle pour ces plateformes qui redoutent que leurs coûts explosent. Salariés des chauffeurs ou des livreurs reviendrait à les faire grimper de 40% selon les calculs de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs. Mais c'est là tout le problème, Enzo. Comment concilier le sentiment de liberté et une protection sociale forte? Pour bénéficier d'une bonne assurance maladie, le salarié doit cotiser, mais l'employeur aussi, ce que les plateformes ne font pas. Pour autant, les statuts peuvent évoluer. Afin d'éviter d'être poursuivis pour travail dissimulé, des plateformes qui faisaient travailler des étudiants pour des petits jobs en auto-entrepreneurs se sont transformées en agences d'intérim qui proposent des contrats de travail. Les magistrats le rappellent, la France ne connaît que deux statuts, salariés ou indépendants. Alors qu'au Royaume-Uni ou en Italie, il existe des modèles hybrides. Le signal envoyé aux plateformes et au gouvernement est en tout cas très fort. Le statut fictif, c'est fini. Il faut en trouver un vrai, qu'il soit nouveau ou pas.
Sandrine Foulon.